Chapitre 4. Le trésor des Valois. Ainsi que nous venons de le constater, si Chandecoq avait déjà réussi à mettre debout contre Belphégor un plan de campagne qui, sans lui offrir encore de sérieuses garanties de succès, avait au moins l'avantage d'être inspiré par la logique même et basé sur des événements dont il avait pu contrôler lui-même l'authenticité, l'inspecteur Ménardier, malgré toute l'activité qu'il avait déployée, se débattait toujours dans les ténèbres du plus obscur mystère. Les fouilles qu'il avait fait opérer à l'intérieur de notre grand musée, pas plus que les explorations et recherches auxquelles il avait procédé lui-même, n'avaient donné aucun résultat. Aucune des empreintes que le service anthropométrique avait photographiées ne correspondait aux fiches de malfaiteurs dont on tient à la préfecture un répertoire si exact et si complet. Et pas un des limiers chargés d'enquêter sur les individus suspects, étrangers ou non, n'avait découvert le moindre indice qui pût permettre de les accuser vraisemblablement d'être le fantôme du Louvre. À la direction de la police, chefs et subalternes montraient des visages plutôt renfrognés. En effet, l'opinion publique commençait à s'énerver. Plusieurs journaux avaient déjà publié quelques entrefilets aigre-doux à l'adresse de ceux qui sont chargés de veiller sur la sécurité de leurs concitoyens. Et M. Ferval avait convoqué Ménardier, non pas pour le gourmander, mais pour rechercher avec lui le moyen d'en finir. « Monsieur le directeur, » déclarait nettement l'inspecteur, « plus je me creuse la cervelle, plus je me dis que pour être revenu deux nuits de suite dans la salle des dieux barbares, et pour n'avoir pas hésité à assommer d'un coup de casse-tête l'infortuné Sabarat, il faut que le fantôme soit guidé par d'importants et impérieux motifs, que le désir de s'emparer d'un objet de valeur est insuffisant à expliquer. » Alors, ponctuait M. Ferval. J'ai d'abord cru que notre mystérieux bandit avait eu l'intention de faire sauter le Louvre. Mais je ne m'y suis guère arrêté, car je ne vois pas très bien à qui un pareil attentat profiterait. En effet, à moins d'être fou. Et notre mystérieux gredin ne l'est pas, j'en répondrai sur ma tête. Car pour agir ainsi qu'il l'a fait, pour entrer et sortir du Louvre sans qu'on puisse se douter comment, il ne suffit pas d'avoir toute sa raison. Il faut encore être doué d'un génie que je qualifierais d'infernal. D'accord. J'en suis arrivé à me persuader qu'il y a là-dessous une affaire politique. Lorsque j'ai été chargé à plusieurs reprises de filer des orientaux suspects, j'ai pu me rendre compte qu'il existait dans ce pays un grand nombre de sociétés secrètes extrêmement puissantes et qui ont des ramifications un peu partout. « Oui, nous savons cela. Voilà pourquoi, » déclarait l'inspecteur, « j'en suis arrivé à me demander si la statue de Belphégor n'aurait pas jadis servi de cachette à l'une de ces nombreuses sectes qui seraient en ce moment désireuses de récupérer les papiers qu'on y avait déposés. »« Oh, mon cher Ménardier, c'est un sujet de roman pour Pierre Benoît que vous me racontez là. » C'est évidemment très captivant, et nul doute que ce grand romancier populaire n'en tirait un très amusant récit. Mais un limier tel que vous doit se méfier de son imagination. Vous auriez tort de vous engager sur une piste qui ne peut que vous procurer une amère déconvenue. De tout ce que vous m'avez dit, je ne retiens qu'une chose, car elle est capitale. C'est que pour être revenu deux nuits de suite au Louvre, le fantôme doit avoir un motif aussi grave qu'impérieux. J'ajouterai qu'il n'a pas de raison pour qu'il ne revienne pas encore dans la salle des dieux barbares. Monsieur le directeur, j'allais vous le dire, et j'ai l'intention d'établir dès ce soir une souricière dans cette salle où il s'est passé déjà de si terribles choses. Bon, voilà, maintenant qu'il nous sent à ses trousses, le fantôme osera-t-il reparaître ? Oui, si nous lui donnons le change, affirmait le haut fonctionnaire. Peut-être, en effet. Attendez un instant. Et M. Ferval se mit à griffonner les lignes suivantes, qu'il lut ensuite à Ménardier. nous apprenons que l'inspecteur Ménardier, chargé d'enquêter sur l'affaire du Louvre, serait sur la piste du coupable. Celui-ci, dans l'impossibilité de passer la frontière, se serait réfugié dans un petit village du Nord, où il serait dès à présent traqué par la brigade mobile. Ajoutons que l'inspecteur Ménardier est parti ce matin en mission confidentielle pour une destination inconnue. Nous ne dirons rien de plus afin de ne pas entraver l'action de la police, mais attendons-nous à des révélations aussi prochaines qu'inattendues. Sa lecture terminée, M. Ferval reprit. Je vais adresser immédiatement cette note à la presse afin qu'elle paraisse dans la troisième édition des journaux de ce soir. Elle ne manquera pas de tomber sous les yeux de notre gredin. Vous allez donc rester ici bien tranquille dans mon arrière-bureau où l'on vous apportera à dîner. Vers 22h, avec deux agents que vous choisirez vous-même, vous vous rendrez au Louvre. Vous vous cacherez avec eux dans la salle en question, et si, comme je l'espère, dupé par notre communiqué, le fantôme y revient cette fois, il ne nous échappera pas. « Oh, et moi, monsieur le directeur, j'en suis sûr !» affirmait l'inspecteur avec force. Fidèle aux directives que lui avait données son supérieur, Ménardier, le même soir, d'accord avec l'administration du musée, s'introduisait subrepticement au Louvre avec ses deux meilleurs agents. Ceux-ci, après avoir reçu ses instructions, se dissimulèrent derrière deux grandes statues qui décoraient la salle des dieux barbares. Ménardier se blottit dans une énorme vasque où il disparut tout entier, tandis qu'à travers les larges fenêtres garnies de barreaux qui donnaient sur la cour du Louvre, les rayons de la lune se glissaient, nimbant de leur argent clair la tête du dieu Belphégor, gisant toujours au pied de son socle, sur les dalles en mosaïque encore marquées par le sang du gardien Sabara. À la même heure, une scène étrange se déroulait à l'intérieur de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, qui dresse en face de la célèbre colonnade de Perrault son admirable façade dont le portail, si délicatement ouvragé, date, paraît-il, de Philippe le Bel. Au milieu du sanctuaire, désert et silencieux, brillait, devant le maître-autel, muette et perpétuelle prière, la petite lampe au reflet rouge qui ne doit s'éteindre jamais. Tout à coup, la porte d'un confessionnal, qui s'appuyait contre le mur de l'un des bas-côtés, s'ouvrait lentement. Une ombre en sortait, puis une autre. C'était le bossu mystérieux et l'homme à la salopette. Celui-ci portait à la main une valise assez volumineuse. Tous deux se glissèrent à pas de loup derrière le maître-autel. Un instant, ils demeurèrent immobiles, l'oreille aux aguets. Mais aucun bruit ne s'élevait dans la nef dont les colonnades et les ogives se perdaient dans la nuit. Le bossu prit dans sa poche une lampe électrique dont il fit fonctionner le contact et projeta la lumière vers le sol. Il s'agenouilla et promena sa main sur une dalle au centre de laquelle on pouvait encore apercevoir les vestiges très vagues d'une fleur de lys qui plusieurs siècles auparavant avait été sculptée en plein granit. Peu à peu, la dalle se déplaça, comme si elle basculait sur un axe invisible, et démasqua une excavation où s'amorçait un étroit escalier de pierre. Le bossu s'y engouffra le premier, suivi par son compagnon dont il éclairait la marche avec sa lampe. Dès qu'ils eurent disparu, la dalle reprit sa place. Après avoir descendu une quarantaine de marches, les deux hommes atteignirent un couloir dont les voûtes et les parois, en maçonnerie puissante, ne semblaient pas avoir reçu des ans le moindre outrage. Sur le sol, légèrement détrempé par une infiltration qui provenait du voisinage assez rapproché de la Seine, ils s'avancèrent à pas comptés, faisant fuir devant eux d'énormes rats et sautillés de non moins gros crapauds qui avaient élu domicile dans ce souterrain, désormais ignoré des humains. Ils parcoururent ainsi une centaine de mètres et s'arrêtèrent devant une petite porte en chêne massive gardée de grosses ferrures rouillées en forme de trèfle. Le bossu heurta de trois coups espacés. La porte s'entrebâilla, livrant passage aux deux complices qui pénétrèrent dans une sorte de crypte en forme de rotonde. Le reflet rougeâtre d'une lanterne accrochée au mur enveloppait sinistrement une forme humaine assise sur un banc. C'était le fantôme du Louvre. Le corps drapé dans un linceul noir et la tête dissimulée dans son capuchon, il semblait attendre le bossu et l'homme à la salopette qui s'approchèrent de lui en une attitude non de frayeur mais de respect. L'homme à la salopette développa la valise à ses pieds. Le bossu, tout en continuant à s'éclairer avec sa lampe électrique, en retira un tube de la dimension et de la forme de ses bouteilles d'air qui servent à regonfler les pneus d'automobile. Puis il se mit à donner quelques explications à voix basse au fantôme qu'il écoutait attentivement et l'approuvait de quelques brefs hochements de tête. Alors, après avoir replacé le tube dans la valise, le bossu se releva et dit « Cette fois, Belphégor, la victoire est à nous !» Le fantôme, se penchant vers la valise, s'empara du tube à air que le bossu y avait déposé et le glissa sous son linceul. Puis il se dirigea vers la porte qu'il ouvrit toute grande. Précédé par le bossu qui avait rallumé sa lampe électrique et suivi par l'homme à la salopette, il s'engagea dans le souterrain qui se dirigeait vers le Louvre. Belphégor et ses deux complices, après avoir marché environ pendant 150 mètres, arrivèrent devant un escalier exactement semblable à celui dont l'ouverture secrète donnait derrière le maître-autel de Saint-Germain-l'Auxerrois. Ils le gravirent sans bruit et se trouvèrent bientôt en face d'un mur qui ne présentait aucune fissure. Le fantôme appuya sur le doigt sur le centre d'une petite pierre qui, en légère aspérité, ressortait sur la paroi. La muraille s'entr'ouvrit sans le moindre bruit, sans le plus petit grincement, laissant apparaître l'ouverture par laquelle s'engouffrèrent successivement Belphégor, l'homme à la salopette et le bossu, qui se trouvèrent de plein pied sur le palier où se dressait la victoire de Samothrace, à l'endroit même où Chantecloque et Bellegarde avaient vu précédemment disparaître le fantôme. Les trois personnages, sans s'y attarder, descendirent les degrés et atteignirent le palier du bas. Belphégor fit signe au bossu d'éteindre sa lampe, et seul il s'engagea dans une galerie obscure. Presque en rampant avec une souplesse féline, sans hésiter, sans tâtonner, un homme qui connaît admirablement les lieux et qui a soigneusement, méticuleusement repéré d'avance tous les obstacles qu'il pourrait rencontrer sur son chemin, il atteignit l'entrée dans la salle des dieux barbares et, s'arrêtant, il déposa à terre l'instrument qu'il tenait caché sous son suaire. Il s'agenouilla et commença à dévisser une petite manette fixée à l'entrée du tube, d'où s'échappa aussitôt une vapeur légère, presque impalpable, dont il dirigea le jet vers la salle où Ménardier et ses deux hommes se tenaient aux aguets. Puis, se relevant, il attendit, immobile, invisible dans la nuit. du fond de la vasque où il était tapis, Ménardier, qui avait l'ouïe excessivement fine, entendit sans doute un bruit insolite, car tout doucement il se leva et regarda autour de lui. Il lui sembla que l'un des inspecteurs qui se dissimulait derrière une statue chancelait, comme s'il était pris d'un subit étourdissement. En proie à lui-même à un malaise indéfinissable, Ménardier sortit de la vasque. Au même instant, son agent, comme assommé, s'écroulait sur les dalles. La tête lourde, les jambes de plomb, à demi suffoqué, Ménardier s'approcha de lui. En même temps, l'autre inspecteur sortait de sa cachette, titubant lui aussi comme un homme ivre. Ménardier le considéra avec stupeur. En un geste instinctif, il le saisit par le bras, mais l'homme glissa sur le sol à côté de son collègue, près duquel il demeura étendu, inanimé. Se raidissant contre la torpeur qui l'envahissait, le limier voulut faire quelques pas, mais soudain il s'arrêta, sidéré. Un spectre effrayant venait de surgir de l'ombre et s'avançait lentement vers lui, du pas automatique d'un halluciné. Machinalement, Ménardier porta la main vers sa poche à revolver. Mais il n'eut pas le temps de saisir son arme. Le fantôme était près de lui, un poignard à la main. Rassemblant ses dernières forces, qui semblaient prêtes à l'abandonner, le policier saisit le bras menaçant de Belphégor, et en même temps il releva brusquement le capuchon qui lui masquait entièrement la tête. Un cri, un râle plutôt, lui échappa. Le mystérieux bandit portait un masque contre les gaz asphyxiants. D'un bond en arrière, le fantôme se dégagea. Ménardier voulut s'élancer sur lui, mais battant l'air de ses bras, il s'écroula, évanoui, près des corps des deux hommes qui, ainsi que lui-même, ne donnaient plus signe de vie. Tour à tour, Belphégor se pencha au-dessus des trois inspecteurs et, certain qu'ils étaient immobilisés pour un long moment, il fit entendre un bref sifflement. Le bossu et l'homme à la salopette apparurent. Chacun d'eux portait un masque exactement semblable à celui de Belphégor et qui les protégeait contre les émanations grâce auxquelles le fantôme du Louvre avait réussi à endormir profondément les trois policiers. Frôlant d'un pas ouaté les mosaïques de la salle, les trois personnages s'approchèrent de la statue du dieu des Moabites qui gisait toujours à la même place. Mais ils ne s'y attardèrent point. Sur un signe du fantôme, les deux acolytes saisirent à bras-le-corps le socle de la statue et non sans effort, mais habilement, silencieusement, ils le poussèrent de côté de façon à découvrir la partie des dalles sur lesquelles il reposait. Pendant cette délicate opération, qui demanda plusieurs minutes, le fantôme demeura immobile, les yeux rivés sur Ménardier et ses agents, qui semblait d'ailleurs aussi rigide que les images de marbre et de pierre qui les entouraient. Ce fut seulement lorsque le socle eut laissé entièrement apparaître l'emplacement qu'il recouvrait que Belphégor regarda à terre et, éclairé par le rayonnement de la lampe électrique que le bossu avait rallumée, il fixa le rectangle plus clair, moins patiné, qui s'offrait à son attention. Bientôt, il se pencha. Son doigt ganté de noir s'enfuit vers une fleur de lys qui occupait le centre d'une mosaïque représentant le blason des Valois et s'y appuya avec force. Lentement et sans bruit, comme celle de Saint-Germain-l'Auxerrois, la dalle bascula, démasquant un trou noir qui se prolongeait sous le sol. Belphégor s'empara de la lampe du bossu et la promena à l'intérieur de l'excavation, au fond de laquelle gisait un coffre assez volumineux. Puis, se relevant, il adressa un simple signe à ses deux complices, qui s'étendirent tout de leur long de chaque côté de l'orifice et y plongèrent chacun un bras. Leurs mains rencontrèrent et saisirent les poignées métalliques fixées aux deux extrémités du coffre que, non sans peine, car il était fort lourd, ils retirèrent de sa cachette et déposèrent près de la statue renversée. Avec sa lampe électrique, le fantôme l'examina. Sur le couvercle en cuir de cordoue que fermait de solides serrures rouillées, il aperçut, à demi effacées, des armes royales, au-dessus desquelles on pouvait encore déchiffrer les initiales en or terni d'Henri III, roi de France. L'une des quatre serrures d'angle était presque entièrement détachée. Belphégor l'arracha tout à fait, l'examina, réfléchit un instant, puis, sans prononcer un mot, il désigna simplement l'entrée de la salle au bossu et à l'homme à la salopette. Ce dernier s'empara du coffre et le chargea sur ses épaules, qui ployèrent légèrement sous le poids. Alors, après avoir jeté à terre la ferrure, le fantôme, éclairant la marche, se dirigea vers la galerie, suivi par ses deux aides. En passant, le bossu reprit le tube qui était resté sur le seuil. Tous trois, tels des ombres, gravirent l'escalier de la victoire de Samothrace et atteignirent le palier. Belphégor fit de nouveau manœuvrer le ressort de l'entrée secrète que, plus perspicace que les historiens et les architectes du Louvre, il avait su découvrir. Quelques instants après, nos personnages s'enfermaient dans la crypte où nous les avons vus tout à l'heure se rassembler. L'homme à la salopette dont le front ruisselait de sueur déposa à terre le coffre et, sans perdre une minute, après avoir ainsi que le bossu retiré son masque, il fit sauter les trois serrures à l'aide d'un ciseau à froid qu'il avait pris dans sa poche et vivement il souleva le couvercle. Aussitôt, le bossu approcha sa lampe électrique et Belphégor, qui s'était avancé, ne put réprimer mieux qu'une exclamation de surprise, un cri de victoire. Le coffre était rempli de bijoux, de joyaux et de pièces d'or. L'homme à la salopette y plongea la main et en retira une poignée d'écus qui étaient marqués à l'effigie du roi Henri III. Tandis qu'il les faisait retomber en cascade, le bossu, à son tour, retirait du coffre une magnifique couronne enrichie de pierreries. « Le diadème de Catherine de Médicis !» murmura-t-il en le faisant admirer au fantôme. Presque aussitôt, à voix basse, mais tout en scandant ces mots d'un geste autoritaire, celui-ci murmura à l'oreille du bossu quelques paroles qui devaient être des ordres. Car le bossu s'empressa de replacer le précieux et somptueux objet à la place où il l'avait pris, et, tirant un couteau, il attaqua une des fermetures d'angle, tandis qu'immobile, Belphégor contemplait le trésor étalé devant lui. Une heure plus tard, la voiturette du bossu stationnait avenue d'Antin, quelques maisons plus bas que le rez-de-chaussée de Jacques Bellegarde. Mais cette fois, c'était l'homme à la salopette qui se tenait sur le siège. De temps en temps, celui se retournait pour jeter un rapide coup d'œil vers l'entrée de l'immeuble où demeurait le jeune reporter. Il était visible qu'il attendait quelqu'un. Or, ce quelqu'un n'était autre que le bossu, qui à ce moment était occupé à une étrange besogne. Après avoir pénétré à l'aide de fausses clés dont il possédait un trousseau des plus complets dans l'appartement du journaliste, dont il semblait connaître à merveille toutes les dispositions, le bossu, tout en s'éclairant de sa lampe électrique, était entré droit dans le bureau dont les volets étaient clos et les rideaux fermés. Après avoir refermé la porte dont il poussa le verrou, il tourna le commutateur qui faisait fonctionner le courant d'un petit plafonnier placé au centre de la pièce, éteignit sa lampe qu'il déposa sur la table, et après avoir jeté autour de lui un regard investigateur, il s'approcha de la bibliothèque. Saisissant quelques-uns des livres qui garnissaient les rayons du centre, et tout en les gardant sous son bras gauche, il fouilla dans l'une des poches de sa houppelande, en retira un objet qu'il glissa rapidement derrière les bouquins demeurés sur la planche et remit les autres livres à leur place. Puis, se transportant jusqu'au bureau de Bellegarde, après avoir choisi d'un œil expérimenté l'une des clés de son trousseau, il l'introduisait dans la serrure de l'un des tiroirs qu'il ouvrit sans la moindre peine. Il déposa d'abord à l'intérieur du meuble une liasse de lettres, puis la fermeture du coffre Renaissance qu'il avait prise dans l'une de ses autres poches. Il referma soigneusement le tiroir, ralluma sa lampe électrique, éteignit le lustre, quitta la pièce, traversa l'antichambre, sortit dans le vestibule, donna un simple tour de clé à la porte et lança devant la loge du concierge un sonore « Cordon, s'il vous plaît !» Un bruit de déclic et le bossu se retrouva dans la rue. À grandes enjambées, il rejoignit l'homme à la salopette, grimpa près de lui et la voiture s'éloigna dans la nuit. Chapitre 5, où Ménardier lance un défi à Chantecoq. Les premiers rayons de l'aurore commençaient à caresser les toits du Louvre et, grandissant peu à peu, s'infiltraient à travers les fenêtres, dissipant l'obscurité qui enveloppait les incalculables richesses artistiques dont l'ancien palais de nos rois est l'unique et splendide écrin. Bientôt, les gardiens de jour se présentaient, libérant leurs confrères qui avaient été de service pendant la nuit et qui, conformément aux instructions qu'ils avaient reçues de la direction, et cela sur la demande de Ménardier, désireux de ne pas pardonner et de ne pas donner l'éveil aux fantômes, s'étaient abstenus de toute ronde dans la salle des lieux barbares ainsi qu'aux alentours. « Rien de nouveau ?» interrogèrent les arrivants. « Rien de nouveau ?» déclarèrent les partants. L'un de ces derniers crut même pouvoir ajouter, résumant d'ailleurs l'opinion quasi unanime de tout le personnel, « Maintenant, c'est fini, si on veut coffrer l'assassin de Sabara, c'est pas ici qu'on doit le chercher. Et je suis même sûr qu'il doit être déjà loin. » Et tandis que les uns rentraient prendre chez eux un repos bien gagné, les autres se répandaient dans les salles dont ils avaient la surveillance. Le successeur de Pierre Gautret, un jeune homme nommé Albert Druquin, qui n'appartenait que depuis quelques mois à l'administration, s'engagea dans la galerie des Antiques avec un autre gardien, l'un des doyens de la maison, le père Bizot, préposé à la garde de la Vénus de Milo et de toutes les autres merveilles avoisinantes. Comme ils approchaient de la salle des dieux barbares, d'aucun s'arrêta et fit « Père Bizot, vous trouvez pas que ça sent une drôle d'odeur ?» Le vieux gardien renifla l'air. « Ma foi, non. Je vous assure que si, on dirait qu'on a débouché un flacon de pharmacie. » Et tout en pénétrant dans la salle, il ajouta « Mais ça vient de par là ?» Soudain, une exclamation lui échappa. Il venait d'apercevoir Ménardier et les deux inspecteurs étendus à terre, inanimés, dans la position où Belphégor et ses complices les avaient laissés. « Père Bizot !» bégaya-t-il. « Père Bizot, regardez donc !» Tous deux, maîtrisant leur émotion, s'élancèrent vers Ménardier, qu'ils reconnurent sur le champ. Presque aussitôt, ils constatèrent qu'il respirait assez régulièrement et qu'ainsi que les deux agents, il n'était que profondément endormi. Le vieux gardien, se ressaisissant, s'écria « Va vite prévenir, monsieur le conservateur !» Dorcan s'élança au dehors. Bizot se pencha sur Ménardier, qui commençait à s'évader du sommeil de plomb qu'il avait terrassé. Plusieurs gardiens, qui se trouvaient dans le voisinage, accouraient, attirés par les clameurs de leurs collègues. Les uns se précipitaient vers les trois policiers, les autres s'arrêtaient devant l'excavation béante qui occupait l'emplacement du socle de la statue de Belphégor. Des cris, des interjections se croisaient. « Oh, le bandit, le misérable, cette fois c'est trois victimes qu'il a faites !»« Mais non !» s'empressait de rectifier le père Bizot, qui seul n'avait pas perdu la tête. « Vous voyez bien qu'ils sont vivants !» En effet, Ménardier et ses deux hommes, s'évadant de leur torpeur, commençaient à donner signe de vie. Et lorsque M. Lavergne, le conservateur en chef, et M. Nabusson, conservateur adjoint, que Dorcan avait alerté, apparurent dans la salle, Ménardier, redressé sur ses genoux et respirant encore avec peine, commençait à ouvrir ses paupières clignotantes. Aidé par deux gardiens, il se souleva, l'air abruti. À plusieurs reprises, il passa la main sur son front tout en bégayant. « Mais c'est fou, c'est insensé, c'est à croire que j'ai rêvé !» Après avoir jeté un rapide coup d'œil sur les deux autres inspecteurs, qui eux aussi reprenaient peu à peu conscience de la réalité, M. Lavergne s'approcha de Ménardier et lui demanda « Mais que s'est-il donc passé ?»« Ah, c'est vous, monsieur le conservateur !» constata le policier de la voix pâteuse d'un homme qui vient de s'évader, non sans peine d'un long et profond sommeil. « Oui, mon ami, voyons, remettez-vous, racontez-moi. Monsieur le conservateur, c'est inimaginable !»« Ah ça, auriez-vous vu le fantôme ?» « Oui, monsieur le conservateur, et je vous jure que j'ai même cru que ma dernière heure était arrivée. » Cette déclaration, faite par un gaillard qui passait à juste titre pour être cloué, doué à la fois d'un grand courage et d'une parfaite honnêteté, produisit sur toute l'assistance une impression que nous pouvons sans exagérer qualifier de sensationnelle. Ménardier, au milieu d'un profond silence, entama le récit du véritable cauchemar qu'il avait réellement vécu au cours de la nuit précédente. Finissant son récit par ces mots, « J'ai bien cru que je le tenais. Oh, si j'avais su, je lui aurais envoyé une balle dans la peau. Mais je voulais l'avoir vivant. D'ailleurs, je puis vous l'avouer, je n'étais pas maître de mes moyens. J'étais tout étourdi, je ne savais plus trop ce que je faisais. » Avouez que c'est extraordinaire! Pendant que tous l'écoutaient dans le plus profond silence, un homme vêtu avec une élégante simplicité, les bords de son chapeau de feutre gris légèrement abattu sur les yeux, se glissait dans la salle des lieux barbares. C'était Chantecoq. Profitant de ce que l'attention générale était littéralement absorbée par Ménardier, le roi des détectives laissa errer ses yeux vers le sol. Après s'être dirigé vers l'excavation d'où Belphégor et ses complices avaient retiré le coffre qui contenait le trésor des Valois, son regard devint tout à coup plus vif et se fixa sur la ferrure qui avait été abandonnée par le fantôme et gisait tout près du trou noir et béant. Le détective se baissa et s'empara de la ferrure. À plusieurs reprises, il la tourna, puis la retourna dans ses doigts. Sans doute, la trouvaille qu'il venait de faire lui parut-elle importante, car un sourire de satisfaction erra sur ses lèvres, et lentement, il se dirigea vers le groupe qui entourait le narrateur, qui s'écriait « Dans ma carrière de policier, J'ai déjà été mêlé à des drames que j'ai le droit de qualifier d'extraordinaires. Mais je vous jure que je n'ai jamais rien vu de pareil. Et j'avoue franchement que je me demande ce qui a bien pu se passer. Une voix vibrante proféra ces mots. Mais je vais vous le dire, mon cher confrère. Un vif mouvement de stupeur secoua l'assistance. Et tous les yeux se portèrent vers Shotcock, qui, sans que personne ne l'eût vu venir, dressait sa fine silhouette entre M. Lavergne et M. Ménardier. À la vue du grand détective, le visage de l'inspecteur se renfrogna, exprimant nettement et sans la moindre ambiguïté. « Bon, ça, de quoi se mêle-t-il, celui-là ?» Mais Shotcock, qui pourtant avait deviné les intentions hostiles de son collègue, sans se départir de ce calme merveilleux qui le caractérisait, reprenait tout en désignant l'excavation. Il y avait là un trésor caché. Un trésor, répéta Ménardier d'un air incrédule. Parfaitement, scandait le grand limier. Un trésor enfermé dans un coffre à Renaissance. Qui vous le donne à penser ? Cette ferrure d'angle que je viens de recueillir au bord même du trou. » Et tout en la montrant à M. Lavergne, Shotcock ajouta « Je crois, monsieur le conservateur, que je ne me trompe pas. » En effet, reconnaissait M. Lavergne, ce morceau de ferronnerie date bien du XVIe siècle. Permettez-moi de vous faire observer qu'il porte les armes des Valois, soulignait le grand limier. Méfiant, presque agressif, Ménardier reprenait. Bon, ce n'est qu'une hypothèse, qui est confirmée, appuyait le roi des détectives, par la précaution que le fantôme a prise de vous endormir ainsi que vos collaborateurs à l'aide de gaz somnifères. À ces mots, Ménardier ne put réprimer une grimace de mécontentement. Et Shotcock, tout en lui frappant familièrement sur l'épaule, ajouta « Estimez-vous heureux qu'il n'ait pas empoigné le gaz asphyxiant ?» L'inspecteur se mordit les lèvres. N'était-ce pas une leçon que lui donnait publiquement son maître ? Mais un agent accourait, portant un pli à son adresse. Ménardier s'en empara et l'ouvrit d'une main fébrile. Au fur et à mesure qu'il en prenait connaissance, son visage se détendait pour refléter peu à peu une expression de joie manifeste et presque triomphante. Et sur un ton de certitude et même de défi, il lança « Monsieur Shotcock, veuillez vous trouver cet après-midi vers 17h. » Quai des Orfèvres. Je crois que j'aurai le plaisir de vous annoncer une bonne nouvelle. » Tranquillement, le roi des détectives répondait « Mais j'y serai, mon cher ami. » Ménardier, s'adressant à M. Lavergne et à son adjoint, « Messieurs, je crois pouvoir vous affirmer que le fantôme du Louvre ne tardera pas à être sous les verrous. » Et se tournant vers Shotcock, qui avait accueilli cette prophétie sensationnelle avec une indifférence non dépourvue d'une certaine ironie, il ajouta « Oh, c'est encore travaillé à la préfecture de police. Oh, je n'en ai jamais douté, mon cher Ménardier, » répliqua le détective avec un accent de courtoisie parfaite. « Alors à tantôt, monsieur Shotcock. À tantôt, mon cher Ménardier. » L'inspecteur s'éloigna avec ses deux hommes. Shotcock glissa dans sa poche la ferrure qu'il tenait à la main, et M. Lavergne, s'approchant de lui, fit sur un ton plein de cordialité. « Alors, qu'en pensez-vous, l'as des as ?» Shotcock répliquait. « Monsieur le conservateur, j'ai toujours eu pour principe de ne jamais vendre la peau de l'ours avant qu'il fût à terre. » Alors, vous croyez que Ménardier a bluffé ? Pas du tout, je suis sûr, au contraire, qu'il est sincère. J'ajouterais même que c'est un garçon très intelligent. Et j'en déduis que, pour avoir réussi à endormir ainsi sa vigilance et accomplir cette nuit l'exploit que vous savez, il faut que notre fantôme soit un de ces bandits comme on n'en rencontre pas plus d'un ou deux par siècle. Mais cependant, Ménardier a été des plus affirmatifs. Bon, il y a certainement une arrestation sous roche, mais... Et après avoir pris un léger temps, Chantecoq martela. Mais je puis vous déclarer que ce soir, Ménardier aura à son tableau un innocent. Chapitre 6. Une flamme qui meurt. Dans le grand salon de la maison d'Auteuil, Elsa Bergen et Maurice de Thouars, l'air grave, préoccupé, échangeaient quelques vagues propos lorsqu'un valet de chambre annonça « Le baron et la baronne Papillon !» La baronne ne donna pas le temps à Elsa Bergen de s'avancer vers elle. Elle se précipita dans le salon, clamant avec des larmes dans la voix « Alors notre chère Simone ne va pas ?» Le baron Papillon s'approchait à son tour, et avec le regard vide de ceux qui sont pleins d'eux-mêmes et le ton déclamatoire de ces gens superficiels qui s'efforcent de masquer leur insensibilité de profonds égoïstes, il demanda « Au moins, notre pauvre ami n'est pas en danger !» Mademoiselle Bergen répliquait avec tristesse « Mais nous n'avons plus beaucoup d'espoir. » Que dit le médecin ? Simone n'a pas voulu le recevoir. Il fallait la forcer. C'eût été raté ces derniers moments. À ces mots, Madame Papillon se laissa tomber sur un siège. Quant à son mari, tout en s'efforçant de donner à son masque pétri de prétentions imbéciles et creuses une expression de douloureuse surprise, il s'en fut vers Maurice de Thouars et lui serra la main avec une effusion exagérée. « Voyons, dit-il d'une voix caverneuse, que s'est-il passé ?» Dissimulant avec peine l'énervement que lui causaient toutes ces visites, Maurice de Thouars répliquait « Déjà, depuis quelque temps, la santé de notre chère Simone nous causait de grandes inquiétudes. » N'abusait-elle pas de stupéfiants ? Hélas, oui. Mais ce qui surtout l'a frappé, c'est la visite de ce fantôme. Au nom de fantôme, la baronne est un sursaut d'épouvante. Le fantôme ! S'écria-t-elle en projetant les bras en avant. Oh, le fantôme, ne m'en parlez pas. Il me semble que je le vois sans cesse rôder autour de moi. J'avais eu l'idée de partir pour notre château de Courteuil, qui est situé entre Dreux et Mantes. Il me semblait qu'à l'abri de ces hautes et épaisses murailles, derrière ces ponts-levis, nous eussions été plus en sécurité. Mais le secrétaire de mon mari, M. Luchner, n'en a dissuadé, prétendant que si le fantôme était décidé à nous rendre visite, il pénétrerait tout aussi facilement dans notre château de Courteuil que dans notre hôtel de Paris. Alors, je suis resté, mais je suis à bout, je n'endors plus. » Elle était déjà un peu détraquée, soufflait l'amateur de bibelots à l'oreille du beau Maxime. « Mais avec toutes ces histoires, je crains qu'elles deviennent tout à fait folles. Tenez, écoutez-la. » En effet, la baronne Papillon, qui à présent ne semblait nullement jouer la comédie, continuait tout en gesticulant. « Mais ce fantôme, je le vois partout, la nuit, le jour, dans mon salon, dans ma chambre à coucher, dans mon cabinet de toilette. » Et proférant un cri de terreur, elle montra d'un doigt tremblant la porte qui venait de s'ouvrir. « Oh, le voici !» s'exclama-t-elle épouvantée. « C'est lui, c'est lui !»« Mais non !» rectifia Elsa Bergen. « C'est Dominique !» Les yeux écarquillés, la baronne contemplait, un peu calmée, le valet de chambre, qui qui venait d'apparaître et s'avançait d'un pas cérémonieux vers la demoiselle de compagnie, à laquelle il dit « Je viens rappeler à mademoiselle que M. Shancock attend déjà depuis un quart d'heure dans le boudoir. » « Shancock !» s'exclama la baronne Papillon. « Shancock, le roi des détectives ! Oh, faites-le entrer, faites-le venir vite, je veux le voir, je veux me placer sous sa protection. » « Dominique, faites entrer M. Shancock, ordonnait Mademoiselle Bergen. » Le valet de chambre se retira pour revenir quelques instants après avec le célèbre limier qui, en apercevant le couple plutôt ridicule que représentaient le collectionneur et son épouse, s'arrêta sur le seuil en l'attitude d'un homme bien élevé qui redoute d'être indiscret. Mais Mademoiselle Bergen, avec beaucoup d'affabilité, le présentait au papillon. Shancock s'inclina devant la baronne, serra la main que le baron lui tendait et adressa une amicale salutation à M. de Thouars, qui lui répondit avec nombre de cordialité. Achevant de rompre la glace, la demoiselle de compagnie poursuivait. Le baron Papillon, qui était un grand amateur d'antiquité, est aussi le plus fin, le plus averti de tous nos collectionneurs parisiens. Mais Madame Papillon ne donna pas à la Scandinave le temps de continuer et elle s'écria « Monsieur Shancock, vous allez bientôt arrêter le fantôme, n'est-ce pas ?» Shancock répondit en souriant « Oh, je l'espère, madame. Figurez-vous que je ne vis plus. » Madame, répliqua le limier, je ne vois pas pourquoi le fantôme s'attaquerait à vous plutôt qu'à une autre. Mais nous possédons une telle quantité de belles choses. Et évidemment, oui, reconnaissait le détective, c'est fort tentant pour un cambrioleur, mais rassurez-vous, baronne. Les constatations que j'ai faites me permettent de vous affirmer que Belphégor, c'est ainsi que nous nommons le fantôme, est un malfaiteur beaucoup trop habile et trop prudent pour continuer ses exploits, maintenant surtout qu'il a atteint l'objectif qu'il poursuivait. C'est-à-dire le trésor des Valois. Le trésor des Valois ! S'exclamèrent simultanément Elsa Bergen, Maurice de Thouars et le ménage Papillon. Parfaitement, déclara le policier. Il y avait donc un trésor caché au Louvre ? Interrogeait le baron. Oui, sous la statue de Belphégor. Et le fantôme s'en est emparé en un tour de main. Quand cela ? La nuit dernière. Décidément, s'écria Madame Papillon, la police est bien mal faite à Paris. On n'avait donc pas établi au Louvre un service de surveillance ? Observait Maurice de Thouars. Ah, si, déclarait Shancock. L'inspecteur Ménardier se trouvait même dans la salle des dieux barbares avec deux de ses meilleurs agents. Et ils ont pu arrêter ce monstre ? Ben, ça leur eût été bien difficile. Pourquoi ? Ils étaient profondément endormis. Oh, j'espère bien qu'on va les révoquer, scandait le collectionneur. « Ce n'est pas leur faute, excusait Shancock. Belphégor leur avait fait, sans qu'ils s'en doutent, respirer des gaz somnifères. »« Des gaz somnifères !» scandait Madame Papillon en levant les yeux au ciel. Et reprise de toute sa terreur, elle se mit à piailler. « Mais c'est effrayant, c'est abominable, on n'a jamais vu une chose pareille !»« Ne criez pas aussi fort, madame, intervenait Mademoiselle Bergen. Simone pourrait entendre. Mais oui, tais-toi donc, appuya le baron. Baronne, reprenait Shancock, vous ne m'avez pas donné le temps de terminer. J'avais à ajouter quelques mots qui, je l'espère, vont tout à fait vous rassurer. L'inspecteur Ménardier m'a assuré qu'il était sur la piste du bandit et que son arrestation n'était plus qu'une question d'heure. « Ah, oh, je respire !» fit Madame Papillon. Alors je crois qu'après cette bonne parole, conclut le collectionneur, nous n'avons plus qu'à nous retirer. Oui, oh, c'est cela, partons, acquiesçait la baronne. Au revoir, mademoiselle Bergen. Et en tête de linotte qu'elle était, madame Papillon ajouta, cette pauvre si bonne, oh, vous lui direz mille choses aimables de notre part, espérons que ça ne sera rien. Au revoir, monsieur Le Toir, monsieur Chantecoq, tous mes compliments. Et la demi-toquée s'en fut avec son mari, qui, après avoir pris congé de tous, la rejoignait dans l'antichambre, en grommelant des paroles inintelligibles qui n'étaient pas certes des éloges à l'adresse de la compagne de sa vie. Mademoiselle Bergen soupira. Oh, Dieu grotesque, elle surtout est insupportable. Chantecoq reprenait. Oui, j'ai bien vu qu'elle vous agaçait et j'ai cherché à vous en débarrasser. Et vous y avez réussi, monsieur Chantecoq, tous mes meilleurs remerciements. Je me doutais bien, déclarait Maurice de Thouars, que cette histoire de trésor des Valois n'était qu'une fantaisie de votre imagination. Oh, pas du tout, protestait le roi des détectives. Elle est parfaitement authentique. Et l'inspecteur Ménardier vous a affirmé qu'il était sur la piste du coupable. Il m'a même donné rendez-vous cet après-midi vers 5 heures à la préfecture de police pour me donner son nom. Et vous irez ? Interrogeait la demoiselle de compagnie. Oh, certainement ! En ce cas, posait M. Le Toir, vous renoncez à votre enquête ? Mais non, puisque je suis ici. Ah, là, j'avoue que je ne comprends pas. Mais c'est pourtant bien simple, mon cher monsieur, reprenait le détective. Ménardier prétend qu'il tient Belphégor, ou tout au moins qu'il va le tenir. Oh, je suis convaincu qu'il suit une route différente de la mienne et qu'il est sur le point de commettre une grave erreur. Donc, je continue. Voilà pourquoi, concluait Chantecoq, j'aurais voulu demander quelques renseignements à mademoiselle Desroches. Hélas, répliquait la Scandinave, elle ne vous entendrait même pas. Mais je pourrais peut-être vous répondre pour elle. Simone n'a guère de secret pour moi. Puisqu'il en est ainsi, mademoiselle, reprenait le grand limier, je n'hésite pas à vous poser tout de suite une question d'une importance capitale. Les lettres dérobées à mademoiselle Desroches sont-elles de nature à compromettre leur signataire ? Mademoiselle Bergen réfléchit un instant, puis elle fit « Soupçonneriez-vous Jacques Bellegarde d'être ?» Non, d'un geste bref, énergique, Chantecoq l'arrêta. Puis il répliqua sur un ton catégorique. « Non, je n'ai pas de soupçon, je cherche. » Gravement, Chantecoq poursuivait. « Vous comprenez maintenant pourquoi j'attache un si grand prix à votre réponse. « Monsieur Chantecoq, reprenait la demoiselle de compagnie, je ne voudrais pas un seul instant que vous vous figuriez que je cherche à me venger d'un homme qui a si cruellement fait souffrir ma pauvre amie. Je suis, en effet, très au-dessus d'un pareil sentiment. » Silencieux, Maurice de Thouars approuvait de la tête les paroles de la Scandinave, qui poursuivait « Mais je dois reconnaître, dans l'intérêt de la vérité, que ces lettres, dont Simone m'en avait fait lire quelques-unes, renferment certains passages qui peuvent être gênants pour celui qui les avait écrits. » Elle allait continuer, mais Juliette, la femme de chambre, accourait, bouleversée et clamant d'une voix tremblante « Venez, 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 mademoiselle est au plus mal !» Elsa Bergen s'élança vers la porte et disparut. Maurice de Thouars se disposait à la suivre et se retournant vers Chantecoq, il lui dit « Excusez-nous, monsieur. » Le détective, tout en s'inclinant légèrement, répondit « Mais c'est moi, au contraire, qui vous demande pardon. J'ignorais que mademoiselle Desroches fut aussi gravement atteinte. » Elle est perdue, murmura monsieur de Thouars. Et il ajouta, avec un accent de grande douleur, ce n'est plus qu'une flamme qui meurt. Et tandis qu'une flamme de colère s'allumait dans ses yeux, il scanda haineusement, ce Bellegarde est un grand coupable. Et accompagnant Chantecoq jusque dans le vestibule où le valet de chambre s'apprêtait à ouvrir la porte, M. de Thouars escalada à grandes enjambées les marches de l'escalier qui conduisait au premier étage. Lorsqu'il pénétra dans la chambre de Simone, Elsa Bergen, Juliette et une infirmière s'efforçaient de maintenir dans son lit la malheureuse jeune femme. En proie à un délire effrayant, les yeux révulsés, le visage décomposé, elle s'écria en agitant les bras. « Le fantôme, je le vois, il est là, il est là !» Échappant en un suprême effort à celle qui s'efforçait de la calmer, d'un bond, elle sauta à bas de son lit et courut vers la fenêtre, comme si elle voulait se jeter dans le jardin. Mademoiselle Bergen et l'infirmière qui l'avaient rejointe la maîtrisèrent assez facilement et déposèrent sur une chaise longue Simone, qui, brisée par ce dernier sursaut, ne manifestait plus aucune énergie et demeura prostrée, anéantie, les yeux clos. Maurice de Thouars s'était précipité sur un flacon de sel placé sur la table de nuit et le passait à l'infirmière qui faisait immédiatement respirer le révulsif à Simone. Au bout d'un instant, elle se ranima un peu et murmura d'une voix très faible où subsistait encore l'écho d'un indicible déchirement. « Jacques, Jacques !» Et tout en serrant nerveusement la main d'Elsa Bergen, elle ajouta haletante, épuisée, vous lui direz que je lui pardonne. Sa tête retomba en avant, elle venait de perdre connaissance. Ce fut en vain que la demoiselle de compagnie essaya de la ranimer. Et d'une voix brisée, Maurice de Thouars dit à la femme de chambre, consternée, Juliette, il était temps, allez chercher un prêtre, car c'est l'agonie qui commence. Chapitre 7, où l'on voit les prévisions de Chantecoq se réaliser d'une façon mathématique. Conformément aux directives de Chantecoq, Jacques Bellegarde était demeuré caché dans la villa des Allées de Verzy, autour de laquelle Pierre Gautret ne cessait d'exercer, avec l'aide de ses deux Danois, Pandore et Vidocq, une rigoureuse surveillance. Une chambre située au premier avait été réservée aux journalistes et il avait été entendu que, pendant le jour, il se tiendrait dans un petit salon dont les fenêtres s'ouvraient à l'arrière de la maison, sur le jardin, et dont, par surcroît de précaution, on avait baissé les stores. Colette avait choisi dans la bibliothèque fort bien fournie de son père quelques livres qu'elle croyait capables d'intéresser son hôte. Et elle les y avait apportés dans le petit salon qui servait de discret asile au jeune reporter. Celui-ci l'avait vivement remercié de cette délicate attention. « J'ai peur que vous ne vous ennuyiez, » exprimait Colette. « Moi, mademoiselle, mais c'est impossible, surtout quand vous êtes là. » Colette rougit légèrement, puis elle détourna la tête. Bellegarde se tut. Une grande mélancolie se lisait dans son regard. Un pli d'amertume et de regret sillonnait son front. Et il reprit. « Mademoiselle, sans le vouloir, vous aurais-je fait de la peine ?»« Pas du tout, » protestait Colette qui s'était ressaisie. « Alors, laissez-moi vous dire... » Oui, parler. Dans ce oui, parler, il y avait à la fois tant de douceur, d'affection, de bonté et de confiance que Jacques se sentit tout de suite enhardi à ces confidences auxquelles, un instant auparavant, il s'interdisait de se livrer. Mademoiselle, fit-il, la première fois que je vous ai rencontrée, j'ai ressenti une impression à la fois très étrange et très douce. À peine avais-je échangé avec vous ces quelques paroles, qu'il m'a semblé que, dès que vous vous êtes éloigné, qu'une force irrésistible que je prenais pour de la curiosité m'attirait vers vous. Alors, j'ai voulu vous suivre, vous aborder, mais vous m'en avez empêché. Comment cela ? Oui, par votre regard. Oh, certes, je n'ai lu en lui aucune indignation, aucune colère. Il était au contraire si calme, si lumineux, si clair, que j'ai deviné en une seconde tout de votre âme. Une âme comme la vôtre, mademoiselle, est faite avant tout pour être respectée. Et cela n'a fait que grandir l'attrait subit que vous avez éveillé en moi. Ensuite, longuement, j'ai pensé à vous. J'ai regretté de vous avoir ainsi perdu de vue, sans doute pour toujours, et j'ai éprouvé une véritable peine en songeant que je ne vous reverrai jamais. Pourtant, ponctuait Colette en baissant légèrement la tête, le journaliste reprit. Oui, le lendemain, cette rencontre au restaurant des Glycines, et à laquelle vous avez eu le tact si délicieux de ne pas faire la moindre allusion. Mais je l'ai oublié, affirmait la jeune fille avec un accent de sincérité charmante. Pas moi, déclarait Jacques. Oh, pourquoi ? Je crains que, à votre insu peut-être, cet incident ait laissé en vous une mauvaise impression, que vous croyez effacer, mais qui, au contact d'événements toujours possibles, peut reparaître et vous indisposer contre moi. Non, ne croyez pas cela, monsieur Jacques, affirmait la jeune fille. Puisque vous tenez tant à revenir sur le fait qui a marqué notre seconde rencontre, je vous dirai nettement que, loin de vous en rendre responsable, je vous ai plaint de tout mon cœur. Merci, fit Jacques avec effusion. « Ah, je crois que vous êtes encore plus généreuse que je ne le pensais. »« Ce n'est pas de la justice, générosité, c'est de la justice, » définit Colette. « Alors, mademoiselle, » accentuait le journaliste, dont les traits s'étaient rassérénés, « je n'ai plus qu'à me réjouir de cette algarade, puisqu'elle a été pour moi mieux que le prétexte, c'est-à-dire la raison d'en finir avec une situation qui pesait aussi lourdement à ma conscience qu'à mon cœur. » Colette, tout en réprimant un soupir, interrogeait un peu craintivement. « Pourtant, vous avez aimé cette femme. »« J'ai cru l'aimer, » affirmait le reporter avec un accent de loyauté parfaite. « En effet, si j'avais été attaché à elle par les liens si puissants d'un véritable amour, » croyez-vous que j'eusse rompu avec autant de facilité une liaison qui m'effrayait depuis un certain temps déjà, parce qu'elle risquait de m'absorber au point de nuire à mon travail et peut-être même de compromettre mon avenir ? Mais elle, murmurait la fille du détective, elle a dû et elle doit encore beaucoup souffrir. Mais elle aussi a cru m'aimer, expliquait Jacques. Qu'en savez-vous ? S'écria la jeune fille. La jalousie que vous lui inspirez, ne prouve-t-elle pas combien elle vous est attachée ? C'est une romanesque, une cérébrale. Elle vit dans une atmosphère qui ne peut malheureusement qu'exercer sur elle une très pernicieuse influence. Je me suis ressaisi le premier, au mieux eût valu que nous nous rendissions compte en même temps de notre mutuelle erreur. Je crois d'ailleurs qu'elle a déjà commencé à voir clair en elle, puisque, au cours d'une récente entrevue, la dernière que nous aurons jamais, elle a fini par reconnaître elle-même que mieux valait ne plus vous voir. Mais tout cela est très pénible, concluait Colette, avec un accent de touchante pitié. Je regrette de vous avoir attristé par ces confidences, soulignait Jacques. « Mais elles étaient nécessaires, » affirmait gravement la jeune fille. Puis, d'une voix subitement douloureuse, elle reprit « Mais, n'est-ce pas, nous n'en reparlerons jamais. » « Mademoiselle Colette !» s'écria Bellegarde en remarquant la tristesse subite de la jeune fille. Et tout en lui prenant la main, il s'écria « Mais qu'avez-vous donc? On dirait que vous allez pleurer. » « Non, non, ce n'est rien, » affirmait la jeune fille en refoulant ses larmes. Puis elle ajouta « Ce doit être si cruel lorsque l'on s'aime vraiment d'être obligé de se quitter. » Jacques, bouleversé par ces paroles, qui étaient presque un aveu, allait répliquer lorsque la porte s'ouvrit avec fracas et la brave Marie-Jeanne apparut dans un état d'agitation impossible à décrire. Son chapeau ballottait sur sa tête. Sa figure avait perdu le teint de pivoine qui lui était habituel et apparaissait aussi blanche qu'une pleine lune d'hiver. Colette, sans prendre les choses au tragique, demanda aussitôt « Je parie, Marie-Jeanne, que vous allez encore nous annoncer une catastrophe. » « Bien pire !» s'exclama l'excellente femme en roulant d'énormes yeux en boule de loto. Et tout d'un trait, elle lâcha « Monsieur Jacques, voilà maintenant qu'ils vous prennent pour le fantôme du Louvre !» Et Marie-Jeanne, à bout de souffle, s'effondra sur un siège. Colette et Jacques échangèrent un regard qui prouvait que les révélations de Madame Gautret ne provoquaient pas en eux la stupéfaction à laquelle celle-ci était en droit de s'attendre. Et rejoignant la cuisinière, qui s'évertuait à reprendre son souffle et ses esprits, le journaliste lui dit avec un accent de grande bienveillance « Rassurez-vous, ma bonne Marie-Jeanne, et racontez-nous ce que vous savez. » « Oh, ne m'en parlez pas, monsieur Jacques !»« Il faut en parler, au contraire. »« Oui, vous avez raison. »« Oh, excusez-moi, mademoiselle Colette, je n'ai plus la tête à moi. »« S'en prendre à vous, monsieur Jacques, vous un si honnête homme !» Et Marie-Jeanne, qui s'était ressaisie, poursuivit avec volubilité. « Eh bien, voilà !» posa la commère. Ainsi que vous me l'aviez demandé, je m'étais rendu, monsieur Jacques, à votre appartement pour y prendre les différents objets que vous m'avez désignés. J'étais en train de sortir de votre armoire vos chemises de nuit et vos chaussettes, lorsque l'on mit à frapper à grands coups à la porte d'entrée. Je me précipitais dans l'antichambre et j'entendis des voix qui criaient dans le vestibule « Ouvrez, au nom de la loi !» J'ouvris, et je me trouvais nez à nez avec 5 bons hommes, parmi lesquels je reconnus le petit Fouinard. Le petit Fouinard? Oui, l'inspecteur Ménardier, celui qui voulait à tout prix que mon homme fût le fantôme du Louvre. Alors un grand type, qui n'avait pas l'air commode, me dit « Je suis le commissaire de police, et je veux parler à monsieur Jacques Bellegarde. » Je lui répondis, comme de raison, vous étiez parti en voyage. Alors le petit Fouinard s'écria en ricanant « Parbleu, je m'en doutais !» Et le commissaire, d'un ton sec, riposta « Mais nous allons perquisitionner !» Avant même que j'aie eu le temps d'y ouf, ils envahissent l'appartement. Le commissaire, le Fouinard, avec les deux agents civils qui les accompagnaient, oh, ils s'en vont droit à votre cabinet de travail, comme s'ils étaient chez eux. Ils n'ont pas été longs à vous ouvrir les tiroirs, à fouiller dans les papiers, dans les dossiers. Et comme ils ne trouvaient rien, le commissaire recommençait à s'impatienter. Mais Ménardier, tirant de sa poche une lettre, la lui a montrée en grommelant. Eh bien, elle était remise ce matin. Elle est anonyme, mais elle confirme tous mes soupçons. Le commissaire a répliqué. Cependant, vous m'avez dit vous-même que vous aviez vu Bellegarde en train de poursuivre le fantôme. Mais le petit Fouinard, qui voulait pas en débordre, s'est écrié « Poursuite simulée, complicité certaine !» Et les poings crispés, Marie-Jeanne s'écria « J'aurais bouffé ce type-là »« J'ai pas osé, car j'ai bien senti que je serais pas la plus forte. Alors, il s'est mis à tout bousculer dans la bibliothèque, flanquant par terre vos beaux livres à tranches dorées. Et derrière une rangée, il a dégoté un vieux cahier qui s'est mis à feuilleter d'un air intéressé. Pendant ce temps-là, le commissaire ouvrait votre tiroir et en retirait un morceau de fer. Un morceau de fer ? Interrogeait Bellegarde. Oui, oh, je n'ai pas très bien vu, pu voir ce que c'était, mais ça m'avait tout l'air d'un vieil article qu'on aurait acheté à la foire aux puces. Et puis il a ramené des laines, des pièces d'or qu'il a étalées sur la table. Oh, des pièces d'or, déclarait le reporter, il y a beau temps que j'en ai plus chez moi. Avec force et insistance, Marie-Jeanne affirmait. Pourtant, ça en était bien, des pièces d'or, j'en suis sûr. Alors le commissaire a appelé Ménardier, qui était toujours en train d'examiner le cahier, et est venu tout de suite vers lui. Et tout en se montrant leur découverte, ils se sont mis à parler à voix basse. J'ai pas saisi tout ce qu'ils disaient. J'ai entendu que quelques mots, grimoire, ferrure, Henri III, et puis j'ai cru comprendre qu'ils parlaient d'une rue. La rue, oh, comment donc déjà? Ah oui, j'y suis, la rue de Jierry. Vous savez où elle perche, cette rue-là? Moi, je la connais pas. Enfin, petit fouinard, c'est écrié. Cette fois, j'en suis sûr, je tiens notre bandit. J'ai voulu le questionner, mais il m'a envoyé promener. Ah, quel vieux choléra! Je lui garde un chien de ma chienne, et puis ils sont partis en emportant leur butin. J'ai attendu un bon moment pour filer, car j'avais peur qu'ils me fassent suivre. Dame, je suis plutôt facile à repérer. Alors, au bout d'une heure, pour bien les mettre dedans, j'ai pris un taxi et je suis allé porter vos bibelots au petit Parisien. Et puis je suis remonté jusqu'à Barbès, où j'ai pris le métro, et voilà. Et Marie-Jeanne conclut. Vous verrez, monsieur Jacques, qu'ils vont vous accuser d'avoir assassiné Samara. Bellegarde, qui avait écouté le récit de la brave femme avec une nervosité sans cesse croissante, s'écriait au comble de l'indignation. Oh, c'est trop fort! Il allait s'élancer vers la porte lorsque Colette le retint. Où allez-vous donc? Demanda-t-elle d'un ton plein d'anxiété. « Mais me justifier ?» La fille du détective scandait avec force. « Rappelez-vous que mon père vous a recommandé de ne pas bouger d'ici. » Le journaliste répliquait. « Mais je ne puis demeurer sous le coup d'une accusation pareille. »« Restez, je vous en prie, » suppliait Colette. Emportée par le désir de confondre ceux qui l'accusaient, Bellegarde allait passer outre. Mais Chantecoq apparut sur le seuil de la porte que le jeune reporter s'apprêtait à franchir. Le visage souriant, le grand limier l'arrêta d'un geste à la fois énergique et amical. « J'ai tout entendu, » fit-il. « Calmez-vous, mon ami, je vous en prie. Vous allez voir que tout cela va s'arranger. » Tandis que Colette rejoignait Marie-Jeanne et s'efforçait de la rassurer, Chantecoq prit Bellegarde par le bras, et après avoir refermé la porte, il l'emmena au milieu de la pièce et commença à lui murmurer quelques mots à l'oreille. À mesure que le roi des détectives parlait, le visage du journaliste se rassérénait. Et lorsque le père de Colette eut terminé, Jacques fit d'un air satisfait et même joyeux. Ah, décidément, monsieur Chantecoq, vous êtes un homme de génie. Dites plutôt que je sais mon métier, protestait modestement le premier policier de France. Et s'adressant à sa fille, il ajouta : Tout marche très bien. Je vais seulement m'occuper de mettre notre ami Bellegarde à l'abri de toute indiscrétion. Mais je crois qu'avant peu, le véritable Belphégor aura de mes nouvelles. car cet animal, le Ménardier, est tellement buté, malgré tout ce que j'ai pu lui dire, qu'il est capable d'attirer des ennuis à notre ami. D'autre part, il faut bien reconnaître que le fantôme du Louvre a fort habilement manœuvré. Chantecoq emmena aussitôt son hôte dans le laboratoire où nous l'avons vu précédemment analyser le contenu de l'un des bonbons empoisonnés. Allant droit à une grande armoire, il l'ouvrit à l'aide d'une clé empruntée au trousseau qu'il avait toujours en poche. Les deux battants du meuble laissèrent apparaître, suspendus à des porte-manteaux, des vêtements et des uniformes de toutes sortes. Chantecoq choisit tour à tour une redingote, un gilet, un pantalon noir et un chapeau genre Borsalino qu'il remit à Bellegarde. Il s'en fut ensuite vers une commode dont il tira à lui le premier tiroir. Il était rempli de boîtes en carton qui portaient toutes une étiquette. Il en prit une et en retira une perruque aux cheveux abondants, une moustache en croc et une barbiche à la mousquetaire. Puis il s'en fut déposé tous ses postiches sur une table à maquillage telle qu'on en voit dans les loges d'artistes et qui était munie de tous les accessoires nécessaires. Jacques, quittant son complet, commença à revêtir les habits que Chantecoq venait de lui remettre. « Nous sommes à peu près de la même taille, » déclara ce dernier. « Vous allez voir que tout cela va vous aller à merveille. D'ailleurs, le rôle que je vous demande de jouer ne réclame pas une grande élégance. » Lorsque Bellegarde eut terminé son échange, le roi des détectives lui jeta un peignoir sur les épaules. Puis, après l'avoir fait asseoir devant la table à maquillage, avec une dextérité et une sûreté de touche remarquables, il enduisit le visage du journaliste d'un fond de teint qui lui bistra la peau comme celle d'un Italien de Calabre. Ensuite, il le coiffa de la perruque, l'aida à se coller sous le nez, le menton, la moustache et la barbe, qui s'accordaient merveilleusement avec la chevelure postiche, et après avoir remis à Jacques une paire de lunettes à monture d'écaille, que le jeune reporter s'empressa de faire chevaucher sur son nez, il lui dit « Maintenant, mon ami, regardez-vous dans la glace !» Bellegarde se plaça juste devant le miroir qui surmontait le meuble devant lequel il était assis. Une exclamation de surprise et de satisfaction lui échappa. En effet, la transformation était si complète, si absolue, qu'il était impossible, même à l'œil le plus exercé, de penser qu'elle était due à un artifice de camouflage et que le personnage qui se dissimulait sous cette identité nouvelle n'était autre que le jeune et déjà célèbre reporter du Petit Parisien. Chantecoq, ravi, s'écriait « Bon, c'est parfait, je défie qui que ce soit de vous repérer !» En effet, c'est prodigieux, admirait le journaliste. D'un air résolu, Chantecoq scanda. Maintenant, Seigneur Belphégor, à nous deux. À la même heure, une torpédo-sport filait à toute allure sur la route de Mantes à Dreux. Le bossu tenait le volant. Assis près de lui, l'homme à la salopette lisait à haute voix le billet suivant. « Lorsque vous aurez transporté le trésor à l'endroit que je vous ai indiqué, il ne vous restera plus qu'à me débarrasser de Chantecoq, qui commence à devenir singulièrement encombrant. » Belphégor. Le bossu eut plusieurs petits hochements de tête approbatifs. Tout en déchirant le papier en 1000 morceaux qu'il abandonna au vent, l'homme à la salopette martela « Ce détective est un adversaire redoutable. »« Possible, » ricana le bossu. Et le regard tout flambant d'une haine et d'une cruauté implacable, il ajouta « Mais demain soir, le coq aura fini de chanter. »